débat du jour.
François Bernard.
Bonsoir et bienvenue à l'écoute du débat sur RFI. Ce mercredi, des personnes handicapées de plus de 20 pays européens ont manifesté dans les rues de Bruxelles jusqu'au Parlement. Elles ont fait une nouvelle fois passer le message qui leur tient à cœur. Leur handicap ne doit pas les empêcher de vivre selon leur choix, de vivre avec leur famille plutôt que dans les institutions, d'utiliser les transports ou d'avoir un travail en fonction de leur niveau d'études. Alors la société accorde-t-elle une attention suffisante à ceux qui ont des problèmes pour se mouvoir, se déplacer ? Les règlements dans l'habitat, l'urbanisme sont-elles adaptées à leurs besoins ? Les personnes handicapées sont-elles suffisamment prises en compte ? On va en parler ce soir avec nos deux invités. Je vous les présente tout de suite. Nicolas Méry est conseiller national en accessibilité universelle de l'association APF. C'est l'association des paralysés de France. Bonsoir Nicolas Méry.
Bonsoir.
Et puis Françoise Carpentier est architecte. Elle est la co-auteure d'un rapport sur l'impact des règles d'accessibilité dans la construction de logements neufs qui a été remis, je crois que c'était en 2012 au ministère du Développement. Vous nous direz ce que ce rapport est devenu. Bonsoir à vous, Françoise Carpentier.
Bonsoir.
Alors, je commence avec vous, Nicolas Méry. Les problèmes auxquels sont confrontées les personnes handicapées sont nombreux, divers, on imagine. Est-ce qu'il y en a un qui vous paraît particulièrement négligé par la société ?
Par rapport au sujet de l'accessibilité,
oui.
Bah, ça impacte naturellement la liberté d'aller et venir des personnes. Hein. Mmh. Donc on n'a pas du tout les mêmes droits que les autres concitoyens qui ont la possibilité de se mouvoir. Mmh. Donc là, même si la France avait été saluée en 2005 par rapport à une réglementation qui avait été jugée extrêmement progressiste, on va dire, dans les faits, il y a eu beaucoup de complications à ce que ça puisse s'appliquer. Mmh. Et on a encore beaucoup de problèmes, que ça soit pour les bâtiments existants, et y compris pour le neuf. Il y a encore 25% des écoles neuves qui sont inaccessibles encore aujourd'hui, à ce jour. Donc il y a des problèmes effectivement de formation de la part de professionnels du bâtiment. Il y a des progrès qui sont faits indéniablement par des architectes, mais on peut faire encore mieux. Là, on se retrouve plutôt un problème de manque de formation de divers corps d'état du bâtiment. Mais effectivement, c'est pas du tout la même vie que tout à chacun. Chacun peut pas choisir ses lieux de loisirs, ses lieux de travail, à pouvoir accéder aux services publics. C'est véritablement devoir se muer en ingénieur, en mode de déplacement, pour pouvoir constamment préparer chaque jour, chaque lendemain.
D'accord. Alors, on va demander à Françoise Carpentier comment elle se situe l'architecte valide que vous êtes en matière d'accessibilité au lieu public, d'une manière générale, peut-être, et peut-être plus spécifiquement vis-à-vis de l'habitat.
Alors, d'abord juste, je rectifie, c'est Catherine Carpentier.
On m'a mal renseigné manifestement. Je le barre immédiatement et je remplace Françoise par Catherine. Excusez-moi, Catherine Carpentier.
Je vous en prie. Mais écoutez, nous, on travaille à l'agence exclusivement sur du bâtiment neuf, enfin quasiment exclusivement. Donc nous, c'est vrai qu'on... Le titre de l'émission, les personnes handicapées sont-elles suffisamment prises en compte ? Pour nous, au quotidien, à l'agence, je ne peux que dire oui, puisque c'est effectivement une problématique maintenant qui est tout à fait prise en compte au jour le jour, au quotidien, dans chaque projet, que ce soit de l'habitat, que ce soit du scolaire. Je suis très surprise d'entendre dire que 25% des écoles au jour d'aujourd'hui, des écoles neuves, sont inaccessibles. Je comprends même pas comment c'est possible. En tout cas, nous, c'est quelque chose qu'on a tout à fait pris en compte. Et c'est vrai que le rapport que nous avons fait, qui concernait principalement le logement, montrait quelques sujets de crispation au sujet de ces normes.
Vous voulez dire qu'il y a des contraintes légales aujourd'hui qui obligent à adapter les bâtiments neufs aux besoins des personnes handicapées ?
Bien sûr. Donc ça, on peut tout à fait le comprendre. Ça paraît juste évident que ces personnes qui ont déjà des problématiques lourdes puissent accéder n'importe où. Ça, pour nous, c'est tout à fait évident. Mais ça engendrait à l'intérieur des logements des résultats tout à fait néfastes à tout le monde. Et c'était en ça qu'on voulait alerter un peu le ministère qui a fini par nous commanditer ce rapport. C'est que à un moment donné, les logements arrivaient à un point de non-retour où ils étaient plus performants pour qui que ce soit, ni pour les personnes à mobilité réduite ou malentendantes ou malvoyantes, enfin voilà, ni pour les personnes valides, ni pour les bailleurs sociaux qui n'étaient pas satisfaits des résultats obtenus, ni par les acquéreurs, ni par personne. Donc les architectes se sont fait un peu traiter de noms d'oiseaux parce qu'ils étaient plus capables de faire leur métier, mais c'est qu'on s'est retrouvé dans une espèce d'impasse qui s'est cristallisée il y a quelques années, il y a 4-5 ans, parce que on a eu le recul nécessaire à un moment donné pour juger du résultat obtenu suite à la mise en route de cette nouvelle règle.
Alors,
de 2005.
Nicolas Lamery, est-ce que les mesures qui ont été prises en matière d'habitat sont conformes aux besoins ou contraintes des personnes handicapées?
Non, pas du tout. Alors, c'est vrai que là, on est aux antipodes, c'est-à-dire que les professionnels du bâti, y compris les promoteurs, se plaignent effectivement d'un surplus de normes, et je reviendrai sur ce sujet-là tout à l'heure. Et il y a effectivement un certain nombre de critères réglementaires aujourd'hui. Simplement, ces critères-là sont basés, par exemple, pour les personnes à mobilité réduite, sur le gabarit d'un fauteuil roulant manuel, et non d'un fauteuil roulant électrique. Donc déjà, et l'interprétation des normes, si vous voulez, se fait constamment à minima. Et le secteur du bâtiment nous demande effectivement qu'on ait des seuils de tolérance, mais je dirais négatifs. C'est-à-dire que effectivement, quand vous prévoyez une largeur de porte de 90 cm, que si ça est fait 85, c'est pas très grave. Si, ça peut être grave parce que ça peut empêcher la mobilité concrètement d'une personne. Donc tout ça, ça illustre en fait, et effectivement je suis d'accord avec Madame Carpentier, il y a une grande pression faite sur les architectes. Simplement, c'est parce qu'on est dans un système économique qui fait reposer en fait la contrainte, c'est-à-dire que le commandant des travaux dit voilà, moi j'ai un chiffrage, voici mon budget, donc vous essayez de me construire tant de logements pour tel budget. Bon, mais il y a une étude qui a montré, qui a été faite par un architecte, Nicolas Merlin, pour ne pas le citer, qui a montré qu'effectivement, en termes de coûts, les travaux c'est 40%, donc main-d'œuvre et matériaux, on va dire, mais les frais de portage et de commercialisation c'est près de 25%. Donc, quand on interroge, et donc il y a eu des longs débats sur les normes, on s'est retrouvé pendant 4 mois à plus de 50 autour de la table pour discuter des normes avec le ministère, on mégotait sur des histoires de centimètres carrés, quoi. Alors qu'on n'interrogeait pas, je dirais, toutes les données du problème, notamment, je dirais, les marges qui sont faites par certains, et notamment par certains promoteurs.
Mais Catherine Carpentier, vous notez, vous, et vous pointez, j'ai lu des articles à ce propos, un certain nombre d'incohérences. Lesquelles sont les plus évidentes, selon vous? Vous êtes d'accord avec ce que dit Nicolas Mery à l'instant, ou pas?
Je ne suis pas capable de rentrer dans ce débat économique-là. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a des incohérences. Il y a des incohérences aussi avec d'autres règles, parce qu'on n'a pas que la règle d'accessibilité des personnes handicapées à respecter. Il y a la règle thermique qui est arrivée à peu près en même temps, d'ailleurs, et les deux se sont frottés l'une à l'autre de façon un peu difficile. La règle de sécurité incendie aussi, et c'est vrai que des fois, ce qui serait indispensable, les résolutions qu'on pourrait trouver qui permettraient une accessibilité plus simple pour les personnes handicapées, n'est pas possible à cause d'une réglementation autre ou acoustique, parce qu'il y a aussi la réglementation acoustique. Et c'est vrai qu'en 2005, 6, 7, 8, 9 sont tombées en même temps les règles pour les personnes handicapées et les règles thermiques. Et par ailleurs, souci économique français, mondial, qui fait que maintenant les logements sont plus petits. Les bailleurs demandent à faire des logements plus petits. Il y a 20 ans, un 3 pièces faisait 70 mètres carrés. Aujourd'hui, il en fait plutôt 60 quand il n'en fait pas 58 ou voire 56. Donc quand vous rajoutez ces dimensions dont parle Monsieur Mery, qui est ce fameux rond de cercle de 1,50 m de diamètre nécessaire au passage d'un fauteuil roulant, ça impacte énormément les logements et les petites pièces des logements, les salles de bain, les cuisines. Ce qui fait qu'au final, c'est le séjour qui autrefois pouvait faire 25 ou 28 mètres carrés dans un 3 pièces et qui aujourd'hui en fait, quand il en fait 20, on est content.
Donc trop de contraintes, c'est ça. C'est l'accumulation des contraintes finalement qui vous empêche de
l'accumulation consommer. Des contraintes et la diminution des surfaces des logements.
Bon, alors pourquoi on n'arrive pas à imposer des directives satisfaisantes, Nicolas Mery? Est-ce que les besoins sont peut-être trop divers pour prendre des mesures qui fassent consensus, c'est ça? Ou c'est cette accumulation de contraintes uniquement qui fait que il y a impossibilité de trouver une solution médiane qui soit satisfaisante pour toutes, pour tous?
Il est clair que dans le cadre bâti, l'accessibilité requiert des normes précises. Mais ça ne reflète pas une réelle qualité de l'usage à ce jour pour toutes les personnes en situation de handicap. Mmh. Donc les normes sont insuffisantes. Donc en l'espèce, là, tout le monde est insatisfait. Je pense qu'il faudrait qu'on en sorte par le haut. Moi, je voudrais répondre sur la question de principe. Parce ouais. qu'on nous... on nous serine un débat sur les normes depuis au moins 5-6 ans. Donc il y a un discours en France sur le débat anti-normes. Nous sommes un pays de culture de code romaniste, un pays latin qui régit tout par une obligation de moyens dans le moindre détail. Si on avait fait comprendre, et si la société française était capable de comprendre, ok, on vous met pas de normes, mais vous nous assurez que concrètement, chacun puisse circuler librement, qu'on réfléchisse en termes d'obligation de résultat, là, je pense que ça serait beaucoup plus facilitant. Mmh. Après, au niveau du principe, parce qu'on nous parle tout le temps des normes et des contraintes financières, ce qu'on peut entendre, mais dans quel pays vivons-nous ? La France, sixième puissance mondiale, qui se réclame le champ des pays des droits de l'homme. Alors, est-ce que c'est le festival de la névrose ou pas ? Parce que on pose quand même, non mais on pose quand même la question. Je veux dire, le pays, on parle à ratifier la Convention internationale des droits des personnes handicapées, qui parle d'inclusion, qui parle effectivement d'une liberté d'aller et venir. Donc, c'est pour ça que, en bout de course, on peut comprendre qu'il y a une énorme pression qui est mise sur les architectes, mais il faut aussi que eux n'intériorisent pas, je dirais, les contraintes dans lesquelles. Budgétaires, les mettre les commanditaires. Quoi. Ouais. Donc il faut quand même réfléchir au sens qu'on veut du vouloir vivre ensemble dans cette société française. Alors, déjà, ça c'est un premier point de départ pour sortir de ce débat sur les normes. Après, on peut parler techniquement parlant, effectivement, de telles normes ou telles normes qui ne vont pas. Mais d'abord, revenons-en au principe de grâce.
Catherine Carpentier, vous êtes sensible à ces arguments
ou... évidemment, mais qui ne le serait pas, évidemment, mais je crois, enfin, j'ai bon espoir qu'on sorte par le haut, effectivement.
Ce serait quoi les solutions, alors, pour vous ?
Les solutions, effectivement, c'est avoir une obligation de résultat plutôt qu'une obligation de moyens. Je crois que le travail qui est en train d'être fait sur les normes, puisqu'elles ont été revues et corrigées, je dirais, dans un certain sens, c'est un peu ça, c'est d'arrêter de nous dire, pour arriver à tel résultat, il faut telle solution, et si on prend l'autre solution d'à côté, si elle n'est pas décrite dans la règle, on n'a pas le droit de l'appliquer. Mmh. On n'en est plus là, je crois que là, on se dirige vers une obligation de résultat, je l'espère.
Mmh. Alors,
Nicolas Méry.
Évidemment, ça serait souhaitable, et ça pourrait passer notamment par des formations. Formation des architectes initiales. Il faut savoir qu'il y a 118 formations initiales, ça va du CAP au Master 2, donc ça passe par architecte, designer, ébéniste, manager des achats industriels, avec des arrêtés obligatoires dans les écoles d'enseignement. Ce n'est pas appliqué à ce jour. Ça fait 6 ans que ça dure. Le ministère de la Culture a fait une étude, parce que les associations ont quémandé l'étude, sur les 23 écoles d'architecture. Il n'y en a que 13 qui ont répondu à l'enquête. Donc ça veut dire déjà, il y en a 10 qui n'appliquent pas le module sur l'accessibilité. Sur les 13, il y en a 12 qui font exactement ce qu'il ne faut pas faire, un apprentissage bête et méchant de la réglementation. Parce qu'une bonne formation, il n'y a qu'une seule école qui le fait, c'est celle de Paris-Belleville, grâce à une enseignante en fauteuil. Mmh. Et qu'est-ce qu'elle fait ? Elle demande aux étudiants de se mettre en situation, dans un fauteuil. Elle demande de se positionner comme des personnes déficientes visuelles ou déficientes auditives, pour bien comprendre, se mettre à la place, cultiver l'empathie, en fait.
Davantage de consultations.
C'est-à-dire se mettre à la place, effectivement, de ressentir l'effort qu'il faut faire quand on est une personne en fauteuil. L'effort, donc le moindre dévers, la moindre pente, le moindre ressaut. Ouais. Pour que les étudiants y comprennent, au-delà du fait d'appliquer l'article R107 du Code de la Construction. Ouais. Et tutti quanti. Donc il faut comprendre les usages, plutôt que de se borner déjà uniquement sur la réglementation, qui déjà est bien défaillante d'une part, et inappliquée sur certains aspects d'autre part.
Davantage d'empathie, Catherine Carpentier.
Alors moi, j'ai fait mes études à l'école de Paris-Belleville, mais malheureusement, je n'ai pas eu cet enseignement-là. J'ai fini mes études il y a trop longtemps. Je voudrais pas qu'on reporte tout le sujet sur les architectes sous prétexte que je suis là, parce qu'on n'est pas du tout les seules parties prenantes dans l'acte de construire. Il y a aussi quand même les maîtres d'ouvrage aussi qui ont leur desiderata, et puis les constructeurs et les fabricants. Et je trouve que là, les industriels, moi je comprends pas qu'ils se soient pas attelés à la tâche. Il y a un marché. j'allais dire en or, c'est peut-être malheureux de dire ça, mais il y a un marché quand même qui s'ouvre et personne ne s'empare de ça. C'est enfin l'exemple qu'on ressort à chaque fois, mais qui est tellement crédible, enfin qui est toujours d'actualité, quoi. Vous cherchez un lavabo, vous voulez mettre un lavabo dans un logement accessible à une personne handicapée, donc c'est un lavabo qui est un peu spécifique. Ben vous allez le trouver dans le catalogue hospitalier, dans le catalogue des logements. Vous en avez toujours peut-être un qui maintenant qui se bat en duel au milieu des 50 autres. Et bien sûr, il coûtera 3 à 4 fois plus cher que le lavabo classique. Donc ça, moi, c'est quelque chose qui me dépasse. Et puis un travail sur les portes, un travail sur les fenêtres, un travail de domotique, il y a tout un travail qui doit être fait.
Et qui n'est pas fait.
Et qui ne semble pas être fait, bon. Ou qui est tellement long que pendant ce temps-là, on construit, nous.
Nicolas Mairie.
Oui, je partage entièrement. Il y a un travail qui est pas fait par les industriels. C'est dommage parce que pourtant on l'a expliqué au gouvernement, qui parle beaucoup de silver economy. Vous savez, c'était l'économie dédiée aux seniors, puisque donc la société française connaît un vieillissement démographique. Un quart de la population française aura plus de 65 ans d'ici 10 ans. On est en plein vote du projet de loi sur l'adaptation de la société au vieillissement et on prend pas en compte techniquement, on stimule pas, on va dire, la créativité des industriels. Parce que ça pourrait aussi être développer un savoir-faire industriel français. Le fait de développer de nouveaux produits, d'être innovant en termes de matériel et de matériaux, quoi. Donc ça, c'est vraiment regrettable.
Est-ce qu'on a des points de comparaison avec ce qui se passe ailleurs qu'en France en matière de réglementation? Je ne sais pas si l'un de vous peut répondre à cette question-là.
Alors,
dans un pays européen, par exemple, comparable à la France?
Oui, alors par exemple, les pays anglo-saxons fonctionnent beaucoup plus par objectif de résultat et non pas objectif de moyens. Donc du coup, ça suscite d'autant plus la créativité de tout le monde. Alors aussi bien des designers, des architectes, mais des industriels, parce que du coup, ils sont obligés de comprendre les usages et les besoins des personnes pour trouver les bons produits. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc c'est le cas de l'Allemagne, de la Norvège. Et puis il y a ce fameux principe qu'on appelle la conception universelle, qui est régi par, qui a été développé par la Convention internationale des droits des personnes handicapées. Et vous avez des véritables politiques publiques. Je veux dire, la Norvège ou l'Espagne sont vraiment en avance par rapport à la France. C'est-à-dire que le gouvernement, je dirais, stimule des groupes de travail, des professionnels du bâti, des industriels d'autres secteurs également, pour que effectivement trouver des solutions innovantes qui puissent être source également d'exportation. Là aussi, je veux dire, on voit tout le temps l'accessibilité comme un coût, on ne le voit jamais comme une capacité d'investissement. Mais sortons par le haut de ce problème. Ouais. On a la capacité d'être ambitieux. Alors, faisons-le.
Catherine Carpentier semble d'accord avec vous. Je voulais juste, il nous restait à peu près une petite minute. Finalement, Nicolas Mairie, puisque vous êtes là peut-être aussi pour un peu de plaidoyer, l'accessibilité, c'est pas le seul problème auquel se heurtent les personnes handicapées.
Ah non, il y a énormément de problèmes.
Alors, dites-nous.
Vous avez, on va dire que depuis le vote de la loi de 2005, il y a véritablement qu'un seul champ qui a progressé, c'est la scolarisation des enfants. Il reste encore beaucoup de points à régler, mais il y a quand même eu des efforts très notables.
Ça, c'est un objectif.
Voilà. Par contre, sur les ressources, l'allocation adulte handicapé est toujours en dessous du seuil de pauvreté. Donc, on est la 6e puissance mondiale, soi-disant le pays des droits de l'homme. Ça fait poser question quand même. Je rappelle qu'il y a 12 millions de personnes qui vivent avec une déficience dans le pays, donc ça fait quand même poser question. Et puis il y a tout le phénomène de la compensation, c'est-à-dire pouvoir accès à de l'aide humaine ou de l'aide technique. Donc à ce jour, par exemple, une personne a le droit à une auxiliaire de vie, peut avoir droit à une auxiliaire de vie, qui vous fait à manger, par exemple, ou qui vous aide pour le lever, le coucher, mais pas. Par contre, elle peut pas faire l'aide ménagère. L'aide ménagère, pas loin. Donc, ouais. Comment on fait le ménage quand on est en fauteuil?
Allez, je reprends une phrase d'une des manifestantes à Bruxelles aujourd'hui qui disait: il faudrait un changement de mentalité pour améliorer la situation.
Changeons de regard, oui.
Bon,
c'est
allez,
plus urgent.
On va en rester là pour ce soir. Merci à tous les deux. Nicolas Mairie, conseiller national en accessibilité universelle de l'association APF, l'association des paralysés de France. Et Catherine Carpentier, architecte et auteur avec Emmanuel Kolbok du rapport sur l'impact des règles d'accessibilité dans la construction de logements neufs. Merci également à Florence Pons, à Cécile Périard qui ont préparé et réalisé cette émission. Demain, c'est Anne Corpé qui anime le débat et on se demandera quel rôle joue la francophonie dans la lutte contre le réchauffement climatique. Bonsoir à tous.